Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Le quart d'heure de santé produite par le docteur Guillaume.
Bonjour.
Alors docteur, aujourd'hui nous allons parler d'une autre médecine.
Eh bien il s'agit des médecines complémentaires. Ce sera un sujet d'émission qui ne sont pas habituellement ceux de la médecine allopathique, celle dont nous parlons habituellement. Mais cette médecine présente des insuffisances, les symptômes résiduels, les douleurs, les inconforts, un mal-être, la fatigue, ce sont des échecs à la guérison complète. Les traitements conventionnels ne satisfont pas pleinement tous les malades.
Donc, un petit mot sur les médecines conventionnelles d'abord.
Eh bien, les médecines conventionnelles concernent les médecins généralistes, les spécialistes, les thérapeutes techniques. Ça concerne les techniques comme les infrarouges, les fleurages, les massages, les manipulations. Il y a aussi la rééducation et le thermalisme, et bien d'autres méthodes encore qui sont dites conventionnelles. Quant à la phytothérapie, l'aromatothérapie et d'autres méthodes anciennes, elles sont supplantées maintenant par des thérapeutiques plus récentes, sans pour autant d'ailleurs dévaloriser leurs propriétés pharmacologiques.
Alors venons-en à ces médecines parallèles alors.
Alors les médecines complémentaires sont conçues comme additives aux méthodes conventionnelles imparfaites. La dénomination est approximative. On dit médecine douce, médecine parallèle, médecine naturelle, humaine, mais ce sont des qualificatifs imparfaits. Ce n'est pas un exercice illégal de la médecine, et ce n'est pas non plus une médecine alternative, c'est-à-dire que ce n'est pas un choix binaire, un choix pour l'une des médecines avec une exclusion de l'autre. La valeur de cet apport médical complémentaire s'objective, lui aussi, sur l'amélioration du confort, de la qualité de vie, de la diminution du nombre de prises médicamenteuses dans la journée, de la réduction de consommation sur le long terme. Voilà quels sont les critères qui font qu'on apprécie la médecine complémentaire. Cependant, l'absence de remboursement n'est pas un critère pertinent d'inefficacité et, à contrario, la prescription par un médecin n'est pas une validation de la méthode. Quant à la liste des médecines complémentaires, elle est incertaine. Certains auteurs incluent ou excluent certaines pratiques. Est-ce que l'ostéopathie, la chiropractie, l'oligothérapie, est-ce que l'homéopathie, l'acupuncture sont des médecines complémentaires? Je ne sais pas. Mais la réflexothérapie, l'iridologie, le magnétisme, d'autres encore sont plutôt recensés comme médecines complémentaires. Mais la liste est très imparfaite et elle est bien plus longue.
Donc il y a une demande des malades?
Eh bien, la demande des malades en médecine complémentaire est à l'initiative des souffrants. L'espérance d'une approche thérapeutique différente, susceptible d'être plus efficace qu'un traitement conventionnel en échec, est une motivation très justifiée.
Alors, est-ce qu'on connaît les mécanismes qui agissent ?
Alors, les mécanismes d'action des médecines complémentaires, qu'elles soient physiques ou pharmacologiques, sont souvent inconnus ou approximatives ou même hypothétiques. Mais ce n'est pas la satisfaction intellectuelle du prescripteur qui est recherchée, c'est la satisfaction de résultats du malade. Une explication fausse peut être une explication logique encore méconnue. Et une pratique efficace de médecine complémentaire ne justifie pas son exclusion au prétexte qu'on n'a pas la compréhension de son mécanisme.
Alors quelles sont les indications pour ces médecines-là ?
Alors les indications des médecines complémentaires sont nombreuses. Elles peuvent être aiguës, répétitives, chroniques, mais elles peuvent être aussi préventives et prophylactiques. Prophylactiques, ce qui veut dire prévenant l'aggravation. Chaque pratique a une liste d'indications bien spécifiée. Les indications habituelles des médecines complémentaires, c'est le prurite, c'est-à-dire les démangeaisons, l'eczéma, l'urticaire, les brûlures, la cellulite, les migraines, les algies faciales, les rhumes, les allergies, les arthrites, les douleurs, les coliques, quelques troubles du rythme cardiaque, quelques gènes respiratoires et surtout des insomnies et des angoisses.
Alors, quels sont leurs effets alors ?
Eh bien, les effets de toutes les médecines sont évaluables. La guérison et l'effet recherché. À défaut, l'amélioration de la qualité de vie avant guérison et le délai de maladie écourté sont appréciés. Quant aux effets complémentaires, ils sont de nature préventive, prophylaxique, on l'a dit, de confort et curatrice selon la maladie et le malade. L'effet placebo est connu dans les deux médecines. La guérison spontanée sous traitement, et certaines mauvaises langues disent malgré le traitement, est habituelle. Effectivement, l'imputabilité de la guérison, il y a une relation de cause à effet directe et certaine, mais elle n'est pas démontrable. Toutes les thérapeutiques déclarant une valeur du soin ont pour argument la statistique. La prédictibilité individuelle des effets d'un traitement, de quelque nature qu'il soit, conventionnel ou complémentaire, ou à placebo n'est pas garanti. Et il existe aussi des guérisons inattendues et des échecs incompris. Le placebo n'est pas d'une efficacité toujours nulle. Le résultat favorable sur des signes subjectifs comme la douleur, l'anxiété, la dépression et l'absence d'effets secondaires sont reconnus au placebo. Mais la médecine a ses limites. Malgré les immenses progrès scientifiques, notamment les sciences de la vie, de nombreux domaines restent actuellement hors de portée.
Nous allons faire une pause musicale. Docteur, nous sommes en train de parler des médecines complémentaires et on en arrive au don de guérison.
Eh bien, le don de guérison est relaté encore aujourd'hui. Le guérisseur de brûlures ôte la douleur du feu, le rebouteux restaure la fonction articulaire, mais aucun argument logique que connaît le médecin n'explique ces faits.
Absolument, oui, c'est vrai.
Je vous propose pour illustration l'exemple de l'oligothérapie, notamment traitement de terrain, et traitement ce qu'on appelle les diathèses par les oligo-éléments.
C'est alors, un vous petit allez peu nous compliqué. Expliquer ce que c'est qu'une diathèse.
Alors, les diathèses expriment une prédisposition morbide, qu'elle soit génétique ou acquise, une manière personnelle et très individualisée qui conduit à réagir à une agression de vie, physique ou psychologique, et à identifier le terrain. La diathèse s'exprime après qu'une opportunité révélatrice le permette. C'est vous dire que c'est compliqué. Elle est l'expression de la prédisposition et de la réceptivité du terrain, et c'est la raison pour laquelle les oligothérapeutes ont isolé quatre diathèses. La diathèse allergique, qui est dite aussi arthritisme, la diathèse hyposténique, qui était dite auparavant arthrotuberculose, la diathèse dystonique ou neuroarthritisme et la diathèque anergique qui est la perte des défenses immunitaires et psychiques. Un cinquième état est dit syndrome de désadaptation. C'est vous dire que même dans le vocabulaire, on change de médecine entre la médecine conventionnelle et la médecine complémentaire. Mais cette classification en plus n'est pas du tout celle de l'homéopathie et elle n'est pas non plus celle de la naturopathie qui individualise des diathèses en sous-vitales, normovitales et survitales.
Alors avant de se soigner, on fait un bilan ?
Eh bien, les gens qui pratiquent l'oligothérapie, les diathèses, font un bilan préthérapeutique qui est symptomatique, organique, fonctionnel et psychologique de manière à conduire presque au diagnostic, à l'identification de la diathèse et au traitement adapté.
Alors, les indications du traitement s'adressent ?
Les indications s'adressent aux maladies de la peau. Le prurite, c'est-à-dire les démangeaisons, l'acné, l'eczéma, les allergies rhino-pulmonaires, les infections. Et aussi aux fatigues, aux maladies arthritiques, c'est-à-dire les douleurs, mais surtout les insomnies, les pertes de mémoire, les angoisses, la nervosité, le découragement, le surmenage, et même la perte du plaisir et du désir, qui sont une maladie identifiée en médecine conventionnelle par la dépression.
Alors, les indications thérapeutiques
des oligo-éléments concernent les diathèses. C'est fait pour réguler et pour réparer. Ce n'est pas le traitement de la maladie, c'est le traitement du terrain. Chaque maladie, chaque terrain, et on ne disjoint pas l'un de l'autre,
les deux,
maladie
oui.
et terrain, sont l'indication à un traitement. Pour le manganèse, c'est la diathèse numéro 1, l'allergique. Pour le manganèse et le cuivre, c'est l'hyposthénie. Dans la dystonie, on donne du manganèse et du cobalt. Et pour les anergiques, on donne du cuivre et de l'or et de l'argent. Pour ce qui en est de la diathèse de désadaptation, on donne soit zinc cuivre et zinc nickel cobalt. Et les prescripteurs expérimentés dans cette science, ou tout au moins dans cette pratique, ajoutent parfois du soufre, de l'iode, du phosphore et du fluor.
Alors en conclusion, docteur.
Eh bien en conclusion, les médecines complémentaires se superposent à certaines indications, les affections récidivantes, les douleurs articulaires, mais ces deux médecines, ni l'une ni l'autre, ne s'opposent ni ne s'excluent. Chacune possède des indications privilégiées, elles ne sont pas antagonistes. L'émission Le quart d'heure de santé est diffusée le jeudi à 11h15 et le dimanche à 16h, sur Radio Grand Ciel bien sûr. Vous pouvez l'écouter à tout moment sur le site www.radiograndciel.fr. Amis fidèles, à bientôt.